Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Il y a 400 ans, une infante d'Espagne, Anne d'Autriche, épousait le jeune roi de France, Louis XIII. Franck Ferrand ne pouvait pas passer à côté d'un tel anniversaire. Bonjour Franck.
Bonjour Anissa, bonjour à tous. Le mariage du beau Louis et de la belle Anne a eu lieu à Bordeaux le 21 novembre 1615. Donc on a célébré l'anniversaire là il y a deux jours. Ils avaient tous deux 14 ans, n'ayant que 5 jours de différence. Pour la circonstance, j'ai choisi de nous intéresser surtout aujourd'hui à la jeune mariée. Nous allons ressusciter notamment cette passion contrariée qu'elle a pu connaître avec le duc de Buckingham, avant de revenir sur l'ensemble de cette incroyable destinée en compagnie de Karine Anne.
Et tout à l'heure, à la fin de l'émission, Franck vous répondra à la question de Sylvie, de Reynald, d'Alban, de Jean-François et Juna sur l'origine du titre de dauphin réservé à l'héritier du trône de France.
On peut dire que c'est une question qui travaille nos auditeurs.
Exactement.
Son dauphin, futur Louis XIV, la reine Anne devra attendre 23 ans, près d'un quart de siècle, avant de le mettre au monde.
Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand.
Et cela commence par un bal magnifique au Louvre, comme on pouvait en donner à l'époque. Le bal s'appelle les Fêtes de Junon. Il est donné par la reine Anne d'Autriche. Elle danse, elle a 21 ans, elle est sublime. Elle éblouissait par sa carnation de déesse blonde, raconte Philippe Erlanger, sa bouche voluptueuse, son col royal. Elle avait des cheveux frisés à grosses boucles, de 12 yeux verts légèrement bridés, une taille incomparable, des bras et des mains que les poètes ne se lassait pas de chanter. Le nez un peu long, souvenir de son aïeul Charles Quint, était le seul défaut qu'un censeur sourcilleux aurait pu trouver à sa beauté. Pourtant, tout le monde sait que la reine qui fait tourner tant de têtes, la reine est malheureuse. Elle n'aime pas son mari, ou plus exactement d'ailleurs, elle n'est pas aimée du roi Louis. Ce roi Louis XIII avec qui elle s'est mariée 7 ans et demi plus tôt, alors qu'elle n'avait que 14 ans. Elle a échoué par deux fois à lui donner un fils et la belle-mère qui est là, très présente, Marie de Médicis, passe son temps à l'humilier. Vous savez, autrefois pour une reine de France, pour une jeune reine comme celle-là, dont la mission était de donner un héritier au trône, était de donner un dauphin au roi, nous y voilà avec notre terme de dauphin, ne pas pouvoir donner d'héritier était une véritable malédiction. En ce soir du 5 mars 1623, Anne d'Autriche est là, évidemment, qui rayonne au milieu du bal, et il y a parmi les spectateurs, si je puis dire, un bel homme de 30 ans, qui se fait appeler John Brown, mais en fait c'est un nom d'emprunt, il s'appelle George Villiers, il est marquis de Buckingham, il vient de débarquer il y a quelques jours depuis l'Angleterre, il est là incognito avec un certain Tom Smith. Ce Tom Smith, ça n'est pas n'importe qui, puisque c'est le prince de Galles, Charles, l'héritier de la couronne d'Angleterre. Les deux hommes, en fait, sont en route pour l'Espagne. Ils sont partis chercher l'infante Marianne pour la ramener en Angleterre, pour la marier au prince de Galles. Le but étant de nouer une véritable alliance entre l'Angleterre et l'Espagne. En ce soir du 5 mars 1623, c'est le tout début d'une relation qui va beaucoup, beaucoup faire couler d'encre. Une relation appelée à fasciner les siècles entre Anne d'Autriche et le fameux Buckingham. On est là au cœur de ce qui va plus tard former la trame du premier tome de la célèbre trilogie d'Alexandre Dumas, des Trois Mousquetaires. George Villiers est né en 1592, donc vous voyez qu'il a 25 ans, il a 29 ans à l'époque. Il est issu d'une famille de petite noblesse d'origine normande. Il a vu mourir son père alors qu'il avait 13 ans, sa mère, Mary Beaumont, et l'élève, on peut dire, va essayer de faire ce qu'elle peut, en tout cas pour l'élever avec son grand frère. Elle se remarie à deux reprises. Dès l'adolescence, comme tous les nobles, il est doué en tout. Il est doué en équitation, il est doué en vénerie, en escrime, il danse comme un dieu, il joue même de plusieurs instruments. Bref, c'est extraordinaire. En 1610, il a 18 ans, il part pour Paris. On est à l'époque dans cette attraction parisienne. Hein, pour un jeune noble britannique, il faut venir à Paris. Il va y rester 3 ans. Donc c'est très important. Ça veut dire qu'il parle très bien la langue, qu'il connaît les coutumes de la cour de France. À son retour en Angleterre, il se fiance à une certaine Anne Ashton, qui est une jeune fille orpheline, très très bien dotée. Hein. Elle est très riche, la petite Anne. La mère de George reçoit à ce moment-là un message du duc de Lennox. Le duc de Lennox est très proche du roi d'Angleterre, Jacques Ier. Et Lennox enjoint Mary, la mère de notre George, d'envoyer son fils à la cour. Lorsqu'il arrive à la cour de Jacques Ier, on peut dire que George découvre une situation difficile. Il y a beaucoup de troubles à cette époque. C'est pas vraiment contre le roi que les Anglais sont en colère. En vérité, lui, le fils de Mary Stuart, le roi Jacques, est jugé doux. C'est un homme intelligent. En vérité, c'est contre son entourage que la population a tendance à se soulever. Et parmi ses conseillers, parmi ses favoris, il y en a un qui est d'une grande beauté, qui est véritablement le chouchou du roi. Il s'appelle Robert Carr et il est comte de Somerset. Et il plaît sans doute trop au roi pour plaire à la cour. Et surtout, il est détesté par la population. Avec sa femme, Lady Frances Howard, on peut dire qu'il pille les caisses de l'État. Jacques Ier a de grandes difficultés financières. Il est constamment obligé d'en appeler au Parlement pour essayer de lever de nouveaux impôts. Et alors on se dit, d'un côté, on nous demande des sacrifices financiers et d'un autre, tout passe entre les mains de ce Somerset qui est un véritable panier percé. Le roi demande au Parlement un nouvel effort. Le Parlement refuse. Et bien qu'à cela ne tienne, on dissout le Parlement. Vous voyez donc un peu le contexte tendu dans lequel débarque notre George Villiers. On peut dire qu'au moment où il arrive à la cour, la haine contre Somerset est à son comble. Seulement, George ne sait pas, lui, qu'il est en train d'entrer dans un endroit dangereux. Il ne sait pas qu'il a mis les pieds dans un véritable guépier. Les seigneurs en la personne de Lennox l'ont fait venir à la cour pour créer un véritable rival à Somerset. Ils ont compris que le roi Jacques a un faible pour les beaux jeunes gens, et puisque Somerset a l'air indétrônable, eh bien on va jeter littéralement sur le passage du roi ce beau George Villiers, qui du reste intéresse très vite le roi Jacques Ier, qui bientôt ne parle plus que de lui. Alors vous imaginez la rivalité entre les deux jeunes hommes. Somerset découvre le danger, il a compris qu'il a maintenant un rival, et alors qu'on a nommé George échanson du roi, c'est-à-dire qu'il lui sert à boire à table, on va voir George tout faire pour essayer de le faire chuter. Notamment un jour, il renverse carrément une soupière sur le pourpoint tout neuf de Villiers. George est furieux, il se retourne, il frappe Somerset. C'est très grave, on est en présence du roi, c'est ce qu'ils appellent un crime de lèse-majesté. Mais déjà le roi Jacques a trop de sentiments pour George pour le punir. En vérité, George va devenir gentilhomme servant, gentilhomme de la cour, et bientôt on ne tarde pas à dire qu'il est le nouveau favori du roi d'Angleterre.
Pour le mariage du roi Louis XIII, composé par Philidor. Restez avec nous sur Europe 1. Nous continuons aujourd'hui de fêter cet anniversaire. Il y a 400 ans, Anne d'Autriche épousait Louis XIII et devenait reine de France.
Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
Alors avant de revenir dans quelques minutes sur l'incroyable vie d'Anne d'Autriche, Franck Ferrand, vous nous proposez cet après-midi de revivre sa passion qu'elle avait pour le duc de Buckingham.
Eh oui, alors ce duc de Buckingham, il ne la connaît pas encore là. Pour le moment, il est devenu un peu le favori du roi d'Angleterre Jacques Ier. Il a un rival en la personne de Somerset, sauf que Somerset a lui-même tellement d'ennemis à la cour qu'il ne va pas pouvoir résister. On l'accuse d'avoir tué un gentilhomme, on le jette en prison, il est gracié par le roi, mais il n'empêche qu'il doit quitter la cour et George n'a plus de rival. Il va dès lors accumuler les charges. 1616, 17, 18, c'est l'époque de son ascension irrésistible. Il est grand écuyer, chevalier de la Jarretière, pair d'Angleterre, baron, vicomte, puis comte de Buckingham, conseiller du roi. Il devient marquis de Buckingham. On lui donne pour 80 000 livres sterling de domaine. Vous imaginez, il a que 25 ans. C'est une carrière incroyable qui fait un peu penser à la carrière du marquis de Saint-Marc en France. Quelques temps plus tard. Le roi Jacques ne jure plus que par celui qu'il appelle Steny. Vous imaginez les rumeurs qui commencent à naître, évidemment, pour faire taire les mauvais bruits. On va donner à George une épouse, Catherine, qui lui donnera 5 enfants. Et c'est l'époque où l'Angleterre a de gros problèmes sur le continent, notamment avec la maison d'Autriche. Donc il lui faut s'allier avec l'Espagne. C'est la grande idée de ce favori Buckingham qui se dit que il va marier le fils du roi, le prince de Galles, Charles. Il va le marier à une infante d'Espagne. Et c'est pour ça donc qu'on est obligé d'aller en Espagne, rencontrer l'infante Marianne et qu'on va passer par la France, par la cour de France, d'où le fameux bal dont je vous parlais tout à l'heure, bal auquel assiste donc en mars 1623, Buckingham. En fait, le projet d'alliance avec l'Espagne ne va pas marcher pour des raisons religieuses. C'est que ça aurait obligé pour que l'héritier du trône d'Angleterre, pour que le prince de Galles épouse une infante d'Espagne, il fallait qu'il accepte un certain nombre de conditions. Il fallait qu'il sacrifie à la religion catholique, en quelque sorte. Et ça, pour les Anglais, c'était inacceptable. Ce qui veut dire que le beau plan de Buckingham va s'effondrer. Buckingham doit rentrer en Angleterre, il est complètement dépité. Il ne s'attendait pas d'ailleurs à l'accueil incroyable qu'on lui réserve. Il est reçu comme s'il avait triomphé, comme si sa mission diplomatique était formidable. Il est fait duc de Buckingham, s'il vous plaît. Bref, le roi ne lui en veut visiblement pas du tout. Voilà ce que nous raconte Karine Anne dans « Raison souveraine », ce roman historique qu'elle fait paraître aux éditions du Rocher. Lord Holland et le duc de Buckingham buvaient un verre d'eau de vie, les jambes étendues devant le feu qui crépitait. Les flammes dévoraient un arbre entier déposé dans l'immense cheminée chargée de contrer les rigueurs du climat humide et glacé de cette fin d'automne. Faut dire qu'on est en novembre 1624 à Londres. L'échec du mariage espagnol ne doit pas vous décourager, dit Hollande. Les prétentions de l'Espagne étaient exorbitantes. Convertir le futur roi au catholicisme, pourquoi pas l'annexion pure et simple de l'Angleterre? C'est sans doute un mal pour un bien, répondit l'ambassadeur qui regardait le liquide ambré à la lueur des flammes en le faisant tourner dans son verre. Considérons la France, où nous avons de très sérieux appuis. Buckingham, qui fixait la cheminée, redressa la tête. À qui songez-vous en particulier? Mon cher Milord Buckingham, vous êtes très populaire au royaume de France, railla Hollande. Parce que c'est vrai qu'on l'appelait Milord Buckingham à la cour de France. Or, cet horrible accent qu'ont les Français pour parler notre langue, c'est épouvantable. J'en conviens. Envisageons cependant que, si certains écorchent votre nom, d'autres le murmurent de la manière la plus suave. L'œil de Buckingham s'éclaira. Se pourrait-il que vous fassiez allusion à la reine en personne, my lord? Oui, et c'est toute cette liaison entre tout à fait improbable, tout à fait inouïe, il faut se remettre dans le contexte de l'époque, cette liaison à laquelle personne n'aurait pu songer entre la reine de France, Anne d'Autriche, et le favori du roi d'Angleterre, ce duc de Buckingham. Buckingham se dit qu'après tout, c'est peut-être la solution. Ça ferait oublier l'affaire espagnole. On pourrait allier l'Angleterre à la France. On pourrait, pour sceller cette entreprise, marier Charles, donc le prince de Galles, à Henriette de France, la fille d'Henri IV, donc la sœur de Louis XIII. À Paris, le cardinal de Richelieu est favorable à cette union. Mais attention, lui aussi demande un certain nombre de garanties sur le catholicisme. Jacques Ier reçoit le courrier de Richelieu. Il estime qu'on ne peut pas accepter de telles conditions. Il renvoie une lettre assez terrible. Or, à cette époque, Buckingham, qui souffre de la malaria, est absent de Londres. Qu'importe, il a des espions partout. On intercepte la lettre du roi, il la lit, il l'arrête et il va convaincre le roi Jacques Ier de changer, en vérité, sa position. Le roi d'Angleterre cède face à son favori et il va accepter un certain nombre des conditions de Richelieu. C'est-à-dire que maintenant, on a de bonnes raisons du côté de Buckingham pour retraverser la Manche et pour aller séduire les Français et leur reine.
Le duc de Buckingham et la reine Anne d'Autriche, leur passion, on en parle jusqu'à 15h sur Europe 1. Vous pouvez bien sûr réagir à cette émission et poser toutes vos questions à Franck Ferrand et son invité. Ça se passe sur Twitter avec le hashtag ACDH ou sur Facebook sur la page Au cœur de l'histoire. Franck Ferrand revient dans un instant.
Europe 1, Au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
La reine Anne d'Autriche a donc épousé Louis XIII et est devenue reine de France, mais elle a eu aussi une passion pour le duc de Buckingham.
Alors jusqu'où va-t-elle aller? C'est ça la question.
C'est
regardez
ça qu'on veut
comme
savoir.
Il est beau Buckingham. Il arrive à Paris en ce mois de mai 1625 avec 27 habits somptueux, tous entièrement cousus de diamants. Vous imaginez, un habit de satin blanc incrusté de velours, un autre de satin pourpre brodé de perles. Enfin, c'est incroyable. Sur la vaste collerette de dentelle, raconte Philippe Erlanger, sa tête semble posée comme un chef-d'œuvre. Les cheveux bouclés roulent leurs vagues jusqu'au bas des oreilles. Une royale épaisse, de longues moustaches relevées à la mousquetaire, corrige ce que la perfection de la bouche et du nez aurait de trop délicat. Les yeux admirables sont attentifs, pénétrants. Vous imaginez la reine Anne complètement séduite par cette espèce d'ambassadeur extraordinaire qui vient organiser le mariage de sa belle-sœur Henriette avec celui qui maintenant n'est plus seul prince de Galles, mais le roi Jacques Ier étant mort sur ses entrefaites est devenu le roi d'Angleterre. Il est le roi Charles Ier. Soirée tout à fait extraordinaire au Louvre. Buckingham reste à Paris pendant 7 jours et ça commence à énerver le cardinal de Richelieu, bien entendu. Ça ne plaît pas du tout à Louis XIII non plus, qui même s'il n'est pas capable d'honorer sa femme et même s'il est un très mauvais mari, n'en est pas moins très jaloux. Je dirais même qu'il en est peut-être d'autant plus jaloux. Pour la cour de France, il est hors de question que Buckingham s'attache trop longtemps à la reine Anne. Le 2 juin de cette année 1625, toute la cour quitte Paris pour escorter maintenant Henriette qui va devoir s'embarquer pour l'Angleterre. Évidemment, la reine est là, qui reçoit toujours les hommages de ce duc de Buckingham tellement empressé. Il y a quand même l'étiquette autour d'eux, bien entendu, hein, qui empêche d'aller trop loin. Le 7 juin, la cour arrive à Amiens. La reine de France loge dans une maison avec un grand jardin. Et là, écoutez ce que nous raconte Laporte, qui est porte-manteau de la reine, qui est le fameux valet Laporte, qui nous servira tellement à nous autres historiens pour connaître beaucoup plus tard un certain nombre de détails de la vie de la cour. Il est proche de la duchesse de Chevreuse, Laporte, et il faut dire que la duchesse de Chevreuse fait tout pour faciliter ce qui pourrait devenir une liaison entre Buckingham et Anne d'Autriche. Voilà ce qu'il écrit. Un soir que le temps était fort serein, la reine, qui aimait se promener tard, étant en ce jardin, donc le jardin de la maison à Amiens, le duc de Buckingham la menait. Lord Holland menait Madame de Chevreuse. Menait, ça veut dire qu'il donne le bras, de façon courtoise, bien entendu. Après s'être bien promenée, la reine de France se reposa quelque temps. Puis elle se leva et, dans le tournant d'une allée où les dames ne la suivirent pas sitôt, le duc de Buckingham, se voyant enfin seul avec elle, à la faveur de l'obscurité, s'émancipa fort insolemment jusqu'à vouloir caresser la reine, qui en même temps fit un cri auquel tout le monde accourut. Et La Rochefoucauld précise, ils se trouvèrent seuls, le duc étant hardi l'occasion favorable, et il essaya d'en profiter avec si peu de respect que la reine fut contrainte d'appeler ses femmes et de leur laisser voir une partie du trouble et du désordre où elle était. Vous imaginez le scandale extrême extraordinaire. Dès le lendemain, c'est l'heure des adieux. George, donc Buckingham, baise le bas de la robe de la reine Anne. Il éclate en sanglots. La reine elle-même est proche de défaillir. Buckingham va lui écrire par la suite toutes sortes de lettres enflammées. Des lettres dont certaines sont, vous l'imaginez, interceptées par les services du cardinal de Richelieu. Bien entendu, on est très près là de l'ambiance que décrit Alexandre Dumas au début des Trois Mousquetaires. C'est vraiment ça. À Boulogne, ce serviteur Laporte arrive auprès du duc de Buckingham. Il est chargé d'un mystérieux message et aussitôt, on voit le duc qui saute à cheval, qui arrive comme une sorte d'amant égaré qui trouve Anne d'Autriche au lit, car elle s'est fait saigner toute la journée. Il se jette à genoux devant le lit, il embrasse les draps, il lui dit des mots tendres. Il y a là les dames d'honneur qui essaient de le faire se lever, mais il refuse. Le lendemain, le duc rencontre de nouveau Anne d'Autriche. Ce sera leur dernier échange en public. Buckingham ne songera jamais qu'à revenir en France, mais c'est fini. Ils vont se quitter définitivement. Louis XIII en veut maintenant personnellement à Buckingham. Et ce qui est incroyable dans cette affaire, et nous allons en parler dans un instant avec Karine Anne, c'est qu'elle a eu des conséquences politiques importantes. Ça va être le début d'une véritable brouille entre la France et l'Angleterre. Comme quoi, parfois, de simples coups de cœur, de simples sursauts de l'âme peuvent parfois entraîner des royaumes entiers dans l'abîme. Là, c'est pas tout à fait le cas, mais il a fallu que la reine Anne d'Autriche se montre d'une sagesse extraordinaire et d'une rigueur à toute épreuve pour que les choses n'aillent pas trop loin. Bonjour Karine Anne.
Bonjour.
Vous avez évidemment, vous, repris cette affaire, vous en avez fait un roman, mais un roman qui s'appuie sur l'histoire.
Ah oui.
Nous y venons dans un instant.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
Et cet après-midi sur Europe 1, nous célébrons les 400 ans du mariage d'Anne d'Autriche et Louis XIII. Nous revenons donc sur la vie incroyable d'Anne d'Autriche avec votre invité, Franck Ferrand, Karine Anne, écrivain, doctorante en lettres et auteur du roman historique « Raison souveraine » paru aux éditions du Rocher.
Il faut vous dire que quelques temps, 2 ans et demi après cette affaire, le duc de Buckingham est à Londres, il est dans son cabinet. À la sortie, un homme l'attend qui s'appelle John Felton, il est lieutenant, il était à l'expédition de Ré, on va en parler dans un instant de toute cette affaire du siège de La Rochelle. Sa compagnie a été dissoute, il en veut personnellement à Buckingham, et alors que Buckingham s'arrête et se penche pour regarder un plan, il est pris à bras-le-corps, il entend une voix prononcer « Dieu ait pitié de ton âme ». Et la lame s'enfonce dans la poitrine de Buckingham qui arrache le couteau qui tube et qui va tomber sur une table avant de glisser jusqu'au sol. Il est mort, il a été assassiné. On peut dire que Felton est fier de son acte et qu'avant d'être pendu, il sera acclamé par la foule tant Buckingham est devenu à l'époque impopulaire. Ça, c'est pour le sort de Buckingham. Pour ce qui est de la reine Anne d'Autriche, alors là, c'est beaucoup plus long, Karine Anne, bien entendu. Il faut peut-être commencer par raconter ce que cette liaison entre Anne d'Autriche et Buckingham doit à la légende et ce qui appartient à la vérité. Comment faire la distinction entre les deux? C'est difficile, évidemment.
Mais c'est-à-dire qu'on a beaucoup romancé, évidemment, cet épisode, puisqu'il est en lui-même éminemment romanesque. Il est certain que Anne est une reine malheureuse. Elle est malheureuse en amour, malheureuse aussi en tant que reine et malheureuse dans sa famille. Elle est arrivée en France.
Elle avait 14 ans,
elle y croyait. Elle trouvait que Louis XIII était un garçon charmant.
Oui, ce qu'il était, du reste.
Ce qu'il était, d'ailleurs. Mais ce sont deux enfants de 14 ans. Elle est infante d'Espagne. Elle n'a connu comme individu du sexe masculin que son père et ses frères. Elle ne sortait des palais de son père que pour aller adorer des reliques dans les couvents. Quant à Louis XIII, je crois qu'il faut juste en dire un mot, il a un comportement qui n'est pas tout à fait normal si la normalité existe. C'est quelqu'un qui a un lourd passé et un lourd passif. C'est-à-dire que, et pour cause, il a vu le corps ensanglanté de son père, Henri IV, assassiné, rentrer au Louvre, il a 9 ans. Et sa mère, Marie de Médicis, lui a toujours préféré Gaston. Et l'a élevé, et c'est là où c'est très grave, l'a élevé dans l'idée que si Henri IV avait été assassiné de cette façon, c'était pour ses mœurs dissolues. Donc, elle a jeté une espèce d'opprobre sur le sexe, la sexualité, en ce qui concerne son fils, qu'il va garder toute sa vie. Donc, il a une espèce de détestation, de répugnance. Il est évidemment en plus pas attiré par le beau sexe. Hein, Louis XIII est homosexuel, donc il faut
en tout
quand
cas,
même
il préfère les garçons. On sait pas
oui,
si, très... on sait pas
oh, si, si. Oui. Là maintenant, si, si, on sait qu'il a eu des, mais toujours en ayant en même temps cette détestation de la sexualité. Donc, il faut se représenter ces deux enfants de 14 ans qu'on jette dans un lit le soir de leurs noces, avec charge pour eux de consommer ce mariage impérativement, puisqu'il est contesté en France, hein, que la famille de Condé souhaitait que le roi épousât une princesse de Condé. Donc il faut vraiment que Marie de Médicis puisse proclamer que le mariage est consommé et qu'on ne peut pas...
Et donc il faut que la petite Anne, qui est encore si jeune, totalement voilà. inexpérimentée, avec ce garçon un peu ballot qui est devenu son mari, il faut que tous deux arrivent à faire un voilà. amitié. Et ça, il n'y a rien à faire,
et ils n'y arrivent pas. En c'est fait. Une... Ah oui, c'est un cauchemar. Le confesseur du roi révélera plus tard, le père Arnoux révélera plus tard que Louis XIII lui a confié en avoir conçu d'insurmontables répugnances. Et on voit effectivement qu'il met 4 ans avant d'être capable d'honorer sa femme de nouveau. Et il va y arriver parce que son favori, Luynes, l'amène malum initari dans la chambre de la reine en lui disant maintenant il faut concevoir un héritier, vous devez honorer la reine. Donc vous voyez dans quelles circonstances...
Il a dû se passer, oui, dans l'intimité de ces princes à l'époque, des scènes qu'on ne peut même pas imaginer.
Ah, hein, effrayantes, oui, oui, absolument effrayantes, et en même temps très romanesques, puisqu'on a aussi Louis XIII qui assiste au dépucelage de sa demi-sœur. Enfin, on a tout un tas d'épisodes qui sont effectivement très romanesques, qu'on n'a pas besoin d'inventer hein, dans cette cour où
alors,
les intrigues...
Justement, pour revenir, on est 7 ans après le mariage. Le mariage, voilà. C'était 1615, puisqu'on vient de célébrer là, le 400e anniversaire, même si c'est pas un mariage qu'on a tellement envie de célébrer, mais enfin quand même. Après tout, il a donné naissance à Louis XIV, ce mariage-là, beaucoup plus tard, en 1638. Là, maintenant, nous sommes en 1626-1627, et c'est cette liaison, est-ce qu'on peut parler d'une liaison entre la reine de France et l'ambassadeur d'Angleterre ?
Alors, on peut parler d'une liaison qui est en réalité le résultat d'un double complot. Le premier complot, c'est celui que mené par Lord Holland et Chevreuse, la duchesse de Chevreuse, parce que tous deux ont en fait préparé les deux tourtereaux à se rencontrer. C'est-à-dire que vous avez lu tout à l'heure un épisode où effectivement Holland lui dit que la reine de France pense à lui, etc. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la duchesse de Chevreuse fait exactement la même chose.
La duchesse de Chevreuse est une proche amie de la reine.
Voilà, est une proche amie de la reine et qu'elle fait exactement la même chose auprès de Anne, à qui elle vante les mérites de Buckingham, etc. Alors c'est vrai que Buckingham, il est tout ce que n'est pas le roi. Il est beau, il est charmant, c'est un beau parleur. Vous avez dit tout à l'heure qu'il possédait le français, oui, mais le français des salons, c'est-à-dire qu'il sait vraiment manier...
Parce que la langue précieuse,
absolument.
Oui.
Alors que Louis XIII est bègue, il a un mal fou à s'exprimer en public, il est très 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 complexé, donc, et surtout il est toujours jaloux, il est toujours désagréable, et depuis cette fameuse fausse couche de 1622, où en fait Anne s'est élancée dans la salle du trône,
oui,
elle a glissé...
Elle était enceinte, on sait voilà. À quel point pour Louis XIII c'était
important.
Il n'en croyait pas à ses yeux. Il était heureux comme tout. Enfin que la reine puisse lui donner un héritier. Et voilà que
elle avait déjà fait deux fausses couches, mais là elle en a fait une en courant.
En courant avec des amis, elle va se blesser. Donc c'est un peu irresponsable de sa part. Et là, le roi conçoit une véritable haine envers sa femme.
Ah oui, là il lui en veut parce qu'il a l'impression de faire son devoir pour rien.
Et voilà. C'est déjà assez difficile.
C'est déjà assez difficile.
En plus, elle gâche le travail.
Voilà, exactement. Et à partir de 1622, il y a vraiment une espèce d'antagonisme entre les époux. Donc c'est dans ce contexte-là que Buckingham arrive à la cour, charmant, avec des étoiles dans les yeux quand il la regarde.
Le charme absolu.
Charme absolu, il la regarde comme Louis XIII ne l'a jamais regardée.
Et elle aussi est le charme absolu. Il faut dire qu'elle est très belle selon les critères de l'époque, en tout cas.
Elle est très jolie, c'est une très belle femme, ce qui lui vaudra d'ailleurs quelques soucis avec Richelieu, parce que là aussi c'est pas tout à fait clair. Mais c'est vrai que quand il se rend compte, quand Buckingham étant ambassadeur d'Angleterre, il a le droit à un entretien privé avec la reine, c'est ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui un coup de foudre.
Ah oui.
Voilà.
Et ce coup de foudre, on peut comprendre qu'il ait été favorisé du côté anglais par Holland, qui avait tout intérêt à rapprocher la couronne d'Angleterre de la couronne de France. On comprend plus difficilement l'intérêt de la confidente d'Anne d'Autriche dans cette histoire.
Elle est la maîtresse d'Hollande.
Oui.
Voilà. Donc, elle a envie qu'il y ait des échanges entre l'Angleterre et la France pour que la délégation anglaise vienne le plus souvent possible en France. Donc, en fait, quand vous décriviez tout à l'heure dans les jardins de l'archevêché d'Amiens, ces deux couples qui cheminent, et il y en a déjà un des deux qui est vraiment un couple. Lord Holland est déjà, en effet, l'amant de la duchesse de Chevreuse. Donc, ça donne aussi une connotation un petit peu particulière à cette promenade.
C'est assez terrible. On est vraiment dans ce qu'on appelle une intrigue au plus haut sens du terme. Une intrigue qui va avoir des conséquences. Parce qu'évidemment, il y a ce fameux épisode dont parlent les chroniqueurs. J'en ai lu trois, mais on pourrait en citer d'autres. Oui. Cet épisode d'Amiens, que s'est-il vraiment passé? Est-ce que Buckingham a vraiment été loin dans la cour qu'il a faite à Anne d'Autriche?
Je crois qu'on peut dépasser le mot cour. je pense qu'il a été loin jusqu'au moment où elle a réalisé que là, si vraiment ça se passait vraiment, elle pourrait être enceinte. Or, elle est infante d'Espagne, elle est reine de France. C'est une Habsbourg et une Bourbon par alliance.
Elle a une souveraine très catholique.
Une souveraine très catholique. Elle a conscience du fait qu'elle ne peut pas mettre un bâtard sur le trône de France. La duchesse de Chevreuse a confessé plus tard qu'elle lui avait demandé d'aller s'enquérir auprès de Buckingham le lendemain afin de savoir si elle ne pouvait pas être enceinte. Donc ça veut dire quand même,
voilà, s'il y avait des risques. Elle ne pouvait pas en juger. Elle n'avait pas d'expérience.
Elle n'avait pas tellement d'expérience, mais enfin, elle avait quand même déjà son expérience de femme mariée. Elle a déjà elle-même été enceinte, donc elle sait quand même, voilà, ce qui se passe. Si elle pose cette question, c'est quand même qu'on a été loin. Et oui. Je pense qu'elle s'est arrêtée vraiment avant l'ultime épisode de
La relation que donne La Rochefoucauld, par exemple, est très en deçà de la vérité. C'est allé beaucoup plus loin, en fait.
Bien sûr.
Il y a eu une relation charnelle entre la reine Anne d'Autriche et ce duc de Buckingham. C'est assez incroyable, mais c'est comme ça.
Voilà, je pense qu'ils n'ont pas consommé jusqu'au bout, mais en tout cas, ils ont été suffisamment intimes pour qu'il y ait ce risque.
Alors, j'ai dit tout à l'heure que cette relation avait eu des conséquences politiques extraordinaires. On va y venir dans un instant.
Europe 1. Au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Recevez aujourd'hui Karine Anne, écrivain, doctorante en lettres et auteur du roman historique Raison souveraine aux éditions du Rocher. Parce qu'il y a 400 ans, Anne d'Autriche devenait reine de France. Elle a aussi connu une liaison avec le duc de Buckingham qui a eu des répercussions politiques.
Et oui, des répercussions terribles sur lesquelles on va venir dans un instant. Un autre ouvrage vient de paraître chez Belin dans la belle collection dirigée par Thierry Sarment. C'est un livre de Raphaël Dargent qui est une biographie, s'appelle Anne d'Autriche, l'absolutisme précaire. Inutile de dire, précise Raphaël Dargent, que quand Louis XIII fut informé de toute cette histoire, on parle de l'histoire du 22 juin 1625, donc à Amiens, il laissa éclater sa colère. Marie de Médicis, donc la mère du roi, joua alors hypocritement un rôle de modératrice, prenant la défense de sa belle-fille, qu'elle espérait pourtant bien voir répudiée. Elle est terrible, la Marie de Médicis, comme toujours, évidemment, Karine Anne.
Elle est épouvantable parce que quand je disais tout à l'heure qu'il s'agit d'un double complot, le deuxième complot, c'est celui de Marie de Médicis. Parce qu'en réalité, à Amiens, quand Buckingham a voulu revenir voir Anne pour s'excuser, Anne a pris la précaution de poser la question à sa belle-mère, de lui dire « Est-ce que je peux le recevoir ?» Elle était en son privé, dans sa chambre, et alors là, les bras vous en tombent, parce que Marie de Médicis lui dit « Oui, oui, mais au contraire, recevez-le !» Alors qu'il y avait déjà eu ce premier scandale la veille dans le jardin. Donc, on s'attendait à ce que Marie de Médicis lui dise « Mais ma bru, vous n'y songez pas, vous ne pouvez pas recevoir. » Or, elle la pousse du côté où elle va tomber. Et quand ensuite elle rentre au Louvre, où Louis XIII attend, elle lui dit « Vous comprenez, elle est très jeune, elle ne peut pas se rendre compte du fait qu'elle ébranle le trône et qu'elle vous ridiculise. Elle ne peut pas comprendre que toutes les cours européennes aujourd'hui ont les yeux tournés sur vous, mon fils. » Donc, elle souffle encore sur les braises. Elle est épouvantable. Pourquoi ? Parce qu'elle ne veut pas céder le pas à sa belle-fille.
Elle, c'est une vraie méchante, on peut dire.
Et bête.
Et d'une bêtise assez insondable, effectivement. Et puis, il y a Richelieu derrière, il ne faut pas oublier, etc. Et donc, toute cette histoire va finir par avoir des conséquences importantes parce que Buckingham, une fois de retour en Angleterre, n'a plus qu'une idée, c'est de se venger de cette France du cardinal qui l'a empêché en quelque sorte d'aller au bout de son amour. Il va mettre son dépit au service d'une cause diplomatique et c'est le début des missions vers La Rochelle, des interventions maritimes anglaises et ce sera l'origine du siège de La Rochelle en fait.
Oui, c'est-à-dire que Buckingham demande à venir parler au roi. Il dit je souhaiterais rencontrer le roi de France et m'expliquer, etc. Et le roi refuse. Donc là, on est vraiment dans l'incident diplomatique majeur.
Au plus haut niveau. Oui.
Voilà, et tout représentant de la cour d'Angleterre et persona non grata à la cour de France. Donc effectivement, on va arriver à une situation tendue au point de vivre effectivement une sorte de guerre.
Alors, il y aura deux, même en fait trois interventions maritimes menées par Buckingham lui-même. C'est quand même un peu étrange de voir qu'une affaire privée devient en quelque sorte une affaire publique et que Buckingham fait jouer la diplomatie en fonction de ses propres sentiments. Ça paraît presque trop beau pour être vrai ou trop étonnant.
Mais c'est d'autant plus étonnant qu'il ne faut pas perdre de vue qu'il vient de marier sa sœur au roi d'Angleterre. Donc la position, et d'ailleurs Richelieu en a parfaitement conscience, Richelieu pense que ça n'est pas du tout une bonne idée d'aller à l'affrontement avec l'Angleterre. Lui, il a œuvré pour ce mariage et il essaye de temporiser. Mais il voit très bien, parce que Richelieu est à une transition où il doit asseoir son pouvoir, il voit très bien que Louis XIII est complètement aveuglé par cette jalousie obsédante et que si lui... lui dit, écoutez, non, là, vraiment, on ne peut pas faire ça, il va perdre son statut de favori qui est en train de monter. Donc, finalement, il est obligé d'aller dans le sens du roi, alors qu'il a conscience que ça n'est pas du tout ce qu'il faudrait faire.
Finalement, les intérêts de la reine-mère, de la belle-mère, si je puis dire, Marie de Médicis et ceux d'Anne d'Autriche vont coïncider en quelque sorte. Elles aimeraient l'une et l'autre voir le Richelieu partir. C'est la fameuse journée des dupes de 1630. On sait ce qu'il en est. Finalement, c'est Richelieu qui retourne la situation à son profit, qui s'installe définitivement au conseil, qui exile la reine-mère d'ailleurs, et qui va pendant 8 années faire souffrir Anne d'Autriche. Ça va être terrible ce qu'elle subit.
Ah oui, mais là, en fait, je pense qu'on peut parler, elle est reine, elle a le statut de reine, mais elle a la vie d'une prisonnière.
Ah oui, vraiment,
C'est-à-dire que là, il y a déjà eu en 1626 la conspiration de Chalais, où Chalais a quand même été exécuté, donc on voit quand même qu'on est dans des règlements de compte sanglants. Il y a donc effectivement, vous venez de le dire, la journée des dupes. Là, ça marque vraiment un tournant dans la vie d'Anne. Elle est prisonnière au Louvre.
Ce qui va sauver Anne d'Autriche vraiment à la fin du règne, c'est que après 23 ans sans donner d'héritier à la couronne, elle est enceinte, que cette fois la grossesse va jusqu'à son terme, contrairement aux trois fois précédentes, et qu'elle va donner naissance au fameux Louis Dieudonné, celui qui plus tard deviendra le roi Louis XIV. C'est inespéré. Alors certains ont dit, mais Louis XIV est-il bien le fils de son père, après tout ce qui s'était passé ?
Alors, oui, Louis XIV est bien le fils de son père, pour la raison que, comme je vous l'ai dit, elle est pratiquement gardée à vue. Donc on ne voit pas vraiment avec qui elle aurait pu le faire. Les esprits romanesques qui voudraient que ça soit Mazarin, les dates ne correspondent absolument pas. Et puis j'ajoute les dernières trouvailles par rapport à l'ADN. On sait maintenant que c'est vraiment lui.
Mais on sait aussi que lorsque Richelieu a présenté Mazarin à la reine Anne d'Autriche, il lui a dit « Il vous plaira, madame, il ressemble à monsieur Buckingham. » Donc il y avait quand même toujours chez Richelieu ce souvenir ardent de ce qui s'était passé.
Oui. Alors si cette phrase est vraie, ça montre un petit peu la perversité de Richelieu. Mais c'est vrai que Anne, jusqu'à 1638, où elle donne naissance à Louis XIV, a peur d'être répudié. C'est quelque chose de très profond. Et même cette naissance ne marque pas la fin de la rivalité entre les époux. Louis XIII met autour d'elle des gens qu'elle n'aime pas. Quand il voit qu'elle s'attache à Madame de Sénessay, il la remplace par Madame de Brassac, qu'Anne n'aime pas. Et il essaye même de lui enlever ses deux enfants.
Mais il la persécute.
Il la persécute en permanence.
Mais parce qu'après, ce qu'il faut dire, c'est qu'après Louis est né le petit Philippe, duc d'Anjou, qui sera monsieur, le frère de Louis XIV, bien entendu. Donc il y avait deux héritiers, incroyable mais vrai. Le pauvre roi Louis XIII, prisonnier de ses aigreurs et de ses blocages, finit par mourir en 1643. Et alors là, c'est la régence. C'est-à-dire que après toutes ces longues et difficiles années, la reine va enfin donner la pleine mesure de son pouvoir, dans une situation rendue bientôt difficile par la fronde, hein, bien entendu, elle va gouverner le royaume en tant que régente avec Mazarin. Et elle sera une extraordinaire souveraine, il faut le dire.
Oui, et c'est ça qui m'a intéressée, c'est que en fait, ces 23 années, ces 23 premières années avant qu'elle ne devienne mère, elle a été tenue éloignée de toute la politique. Marie de Médicis était au Conseil royal,
oui, jamais plutôt Anne, deux fois qu'une, oui.
Voilà, jamais Anne n'a eu droit de d'y assister. On l'a vraiment tenue sous le boisseau, alors qu'elle était missionnée par son père au départ. Hein, quand elle arrive d'Espagne, son père lui a demandé d'infléchir la politique française, etc. Son père avait pour elle de grandes ambitions. Et voilà cette femme qui a été maintenue sous le boisseau, qui se révèle finalement une extraordinaire politicienne.
Et au service de la France, il faut bien le dire. C'est-à-dire que toute infante d'Espagne qu'elle est, avec ce titre d'Anne d'Autriche, elle soutient la France, elle soutient la politique française, elle va tenir le royaume à bout de bras, elle va former quand même son fils, Louis XIV, qui sera le roi que l'on sait. Enfin, c'est quand même une bonne femme étonnante, si vous me passez l'expression.
Oui, elle est d'autant plus étonnante qu'elle a eu un mal fou à se sentir française, pour toutes les raisons que l'on vient d'énoncer. Elle écrivait à sa famille, or on a été en guerre contre l'Espagne, donc entre une reine de France communique avec l'Espagne, c'est de la haute trahison. Et elle a commencé à se sentir française à partir de 1638, quand elle est la mère du futur roi de France.
Merci beaucoup, Karine Anne.
Merci.
Votre roman très historique s'appelle Raison souveraine. Il est publié aux éditions du Rocher. Et puis, je rappelle la biographie de Raphaël d'Argent, Anne d'Autriche, tout simplement, aux éditions Belin. Merci.
Instant, Franck Ferrand vous répondrait à la question de nombreux auditeurs qui veulent en savoir plus sur les origines du terme « dauphin » pour désigner le successeur d'un roi de France.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Retour aux origines.
Attention Franck, aujourd'hui ils sont plusieurs à vous poser une question. Il y a Sylvie, Reynald, Jean-François et Alban qui vous demandent sur europe1.fr quelles sont les origines du terme dauphin pour désigner le successeur d'un roi de France.
Tout à fait, à l'origine il y a un prénom Delphinus dauphin qui est un simple prénom et qu'on donnait comme deuxième prénom aux héritiers de deux petites régions, l'Albon et le Viennois. Et il y avait les comtes d'Albon et de Viennois dont les héritiers avaient pour second prénom ce prénom de dauphin. Et c'est pour ça qu'on s'est mis à appeler ces deux régions, petit à petit, le Dauphiné. Or, le dernier dauphin du Viennois, Humbert II, est contraint de vendre ses seigneuries. Et jusqu'au traité de Roman, le 30 mars 1349, par lequel il cède le Dauphiné à Philippe VI, roi de France, il a toutes sortes de difficultés financières. Puis finalement, donc, la couronne de France récupère en 1349 cette région du Dauphiné. Et il est dit dans le traité que ces terres vont devenir apanage du fils aîné du roi. Donc désormais, le fils aîné du roi devient dauphin du Viennois. Et puis petit à petit, on va oublier le du Viennois et on dira tout simplement dauphin. Et par homonymie, alors là c'est là que ça devient amusant, c'est que ça n'a rien à voir avec un dauphin, l'animal, le mammifère marin, mais par homonymie, on se met à utiliser des dauphins, alors qui sont d'ailleurs souvent des dauphins héraldiques, hein, des dauphins tout à fait symbolisés, pour désigner le fils du roi de France. Quant à Louis XIV, vous savez qu'au grand siècle, tout est grand, hein, la grande galerie, le grand canal, le grand siècle, enfin, tout est grand. Et donc on va appeler le fils de Louis XIV le grand dauphin. Voilà, je pense avoir à peu près répondu à toutes les questions de tous nos auditeurs.